Paso doble.
Paso doble.
Lundi, livre.
Bonjour Julien Barré.
Bonjour Toufi Kakem. Allez, première question, est-ce que paso doble, c'est du français pour vous ?
Oui, c'est du français dans la mesure où vous utilisez cette expression, qu'elle entre dans l'usage à partir du moment où il y a cette émission et où des gens la disent simplement.
Alors vous êtes prêts pour ce pas de deux ?
Oui.
Autour de votre ouvrage paru chez L'Harmattan, tu parles bien la France, avec un point d'exclamation. Julien Barré, vous êtes linguiste et journaliste. Vous avez écrit beaucoup d'ouvrages autour de la langue française d'aujourd'hui, celle des quartiers, le verlan, celle du rap. Et aujourd'hui, dans ce livre qui a été diversement commenté depuis sa sortie et surtout depuis l'interview que vous avez accordée pour Le Figaro, vous dites « La France souffre d'un mal dont elle semble fière, un conservatisme, un purisme linguistique teinté de dédain aristocratique intégré par ses locuteurs. » C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, en fait, j'ai été très mal compris, puisque l'interview qui a fait le buzz, comme on dit vulgairement en anglais, sur Internet, était titrée d'abord « La langue française est discriminante ». Or, j'ai jamais dit ça, c'était la journaliste qui me demandait « Est-ce qu'elle est discriminante, la langue française ?» J'avais dit oui, j'avais expliqué, mais ça avait été coupé. En fait, c'est pas le côté bourgeois ou aristocrate de la langue, il est intégré pas par une partie des gens qui seraient opposés à l'autre, pas par l'aristocratie qui serait opposée à la banlieue, mais par chacun des locuteurs. Il peut s'agir aussi bien d'un immigré que d'un ouvrier, que des classes populaires, d'un paysan, que évidemment des gens qui sont supposés détenir le savoir. Chacun corrige son voisin en pensant plus ou moins consciemment détenir le bon usage et que celui de l'autre est incorrect. En fait, la langue est conçue souvent comme quelque chose qui nous dépasse, qui est sacré, qu'on ne peut pas changer, avec un seul usage, avec une grammaire compliquée, une orthographe encore plus complexe, etc. En fait, la langue devrait simplement être un outil. Elle l'est d'ailleurs, on est en train de discuter tous les deux, tout le monde parle tout le temps. C'est d'abord quelque chose dont on fait usage et pas quelque chose qui nous assert.
Mmh. Ça se dit ?
Qui nous a servi ?
Voilà.
C'est vraiment l'illustration typique parce que à chaque fois, on prétend utiliser, faire des cabrioles, des sauts périlleux dans la langue. On utilise par exemple le mot gageur. Le mot gageur, en fait, il faudrait le dire gageure. Et déjà, le fait d'utiliser ce mot-là, c'est faire preuve d'un peu d'être assez présomptueux. Et on a beaucoup de chance de se casser la gueule, en fait, en utilisant la langue française. Il y a toujours quelqu'un qui tient le bâton pour nous battre. C'est ça que je voulais souligner, en fait.
Alors, vous savez quoi l'objet même de votre combat quand vous publiez ce genre de tribune, de point de vue ?
C'est pas vraiment en lien avec la réforme. D'ailleurs, le livre n'est pas écrit en orthographe réformée, mais c'est juste... d'ailleurs, c'est un anglicisme, c'est juste... Il est question de dire que la réforme n'est pas un problème. D'ailleurs, c'est une réforme assez timide, qui est souvent mal comprise, et qui consiste, en général, à simplifier certains mots qu'on a hérités d'une histoire linguistique française où on a fait prévaloir des choses assez compliquées en donnant des racines grecques et latines à des mots qui n'en avaient pas forcément. Le combat, je ne sais pas si j'en ai un, mais ça consiste à dire qu'il faut relâcher un peu la pression sur la langue française et que...
Comment ?
Je constate que les gens en France sont malades de leur langue, mais c'est positif. Hein. Ils sont attachés viscéralement à cette langue. Il y a un sondage qui est paru récemment qui dit que la première chose à laquelle les Français sont attachés relativement à la nation, la patrie, c'est pas le drapeau ou la Marseillaise, mais c'est la langue française. Et donc, dès qu'on touche un tout petit peu à cette langue, c'est toute l'identité qui s'en voit remise en question et certains font des liens avec les migrants, l'immigration, etc. C'est pas ça dont il est question, puisque la langue française, elle est parlée par 220 millions de locuteurs dans le monde, ce qu'on appelle la francophonie, etc. Et souvent, les Français, et en particulier les gens en Île-de-France, et en particulier les gens à Paris, se sentent parfois les seuls dépositaires de cette langue qui est parlée partout, avec des variantes bien qu'elle ait évidemment un socle commun, sa grammaire.
Alors, ce que vous dites, plus on est abstrait, pédant, et donc plus on s'adresse à une élite, plus on a des chances d'être pris au sérieux. C'est qui a dit ça?
C'est Dunton. Et Claude Dunton, c'était son... Alors, je me suis inspiré de l'élan, de la façon de faire... de Claude Dunton, dont le premier livre était Parler croquant, où il
mène... C'est en 73, ça, hein?
73, ouais. Ouais. Je crois qu'il avait 37 ans, à peu près le même âge que... Enfin bon, bref, je vais pas me comparer à Dunton, ce serait totalement absurde. Mais il écrit ça en songeant à ses origines occitanes, en comparant l'anglais, l'occitan, le français... pour aboutir à une réflexion, et c'est lui qui dit que la langue française est une langue bourgeoise, ce que je postulat que je reprends. C'est un livre très très vif, et ce qui est assez
sauf
marrant.
Que vous l'appliquez à la France d'aujourd'hui, la France des quartiers populaires, ouais. Des cités, de ceux qui utilisent le français en intégrant le verlan, et vous prenez un peu leur défense en disant c'est du français aussi.
Bien sûr, mais de toute façon enfin, c'est tout ce qui est parlé en français et du français, quelle que soit la forme que ça prend. Les verbes demeurent conjugués. L'argot des bouchers, le louchébem, c'est une forme de français. Enfin, Dunton, ce qui est assez marrant et ironique, diraient les Américains, c'est que il y a un retournement total dans son mode de pensée. C'est qu'au début, il était très progressiste et il expliquait que la langue française était bourgeoise et qu'elle avait asservi le breton, l'occitan, l'alsacien. Et à la fin de sa vie, il disait qu'elle était menacée par l'arrivée des sabirs des banlieues et de l'américain. Et je reprends la position originelle et initiale de Dunton en disant non. Je veux bien que le mode de pensée dominant managerial américain soit un danger si dans les institutions européennes le français n'est pas défendu, mais que il y ait des apports de mots d'origine étrangère, gitans, arabes, antillais ou africains, et qui soient intégrés dans la langue française, qu'on parle verlan. Le verlan, c'est un mode d'inversion des phonèmes qui date pas d'aujourd'hui, ce serait long à en faire l'historique. Bah donc ça, c'est pas dangereux de mon point de vue.
Mais vous insistez quand même, vous dites que la langue française qui a été conçue à Paris, à Versailles, sur les bords de la Loire, selon la doctrine de Malherbe, etc., cette langue-là, elle devrait s'ouvrir au peuple et qu'elle n'a pas beaucoup bougé depuis Voltaire.
En fait, elle s'est fermée au peuple au moment même où elle s'est conçue. Dans les cours des bords de Loire, à Versailles, au Louvre, elle a été conçue par Malherbe, par Boileau, qui aspirait à ce qu'elle soit pure, bienséante, qu'elle reflète la clarté, l'élégance de la cour, et on a essayé de la débarrasser du soc des charrues, et c'est pas nouveau, en fait. Aujourd'hui, elle est plus populaire que peut-être elle n'était au XVIIe siècle. Mais cette langue des classiques, elle doit être défendue aussi bien. Je suis pas en train de la critiquer. Je suis en train de demander aux gens, si jamais ils en ont envie, de se pencher sur l'histoire du français pour voir que cette langue est née dans des conditions particulières à une époque particulière et qu'on l'a défendue avec une idée particulière.
Et donc, pour aujourd'hui?
Eh ben pour aujourd'hui, si on connaît notre histoire, l'histoire de notre langue française, on se sent pas menacé si jamais il y a des évolutions, si sa syntaxe, a priori sa syntaxe et sa grammaire n'évoluent pas. On a peur, elle peut évoluer avec l'influence de l'anglais où on dit le complément du nom pourrait disparaître. On dit pas la culture du client, on dit la culture client, mais ça, peu de gens s'en alarment. Là, il y a une modification de la morphologie de la syntaxe du français. On craint l'arrivée parfois de mots étrangers, ce qui est dans le fonctionnement d'une langue qui se nourrit, qui vit. C'est normal.
Tu parles bien la France. À quoi renvoie le titre de votre ouvrage, Julien Barré?
Le titre de mon ouvrage est souvent mal interprété, en particulier par les gens qui ne l'ont pas lu. C'est une expression qui est souvent ironique et qui consiste à critiquer l'autre en faisant soi-même une faute. Et je l'entendais quand j'étais petit à l'école primaire, dite par un gosse d'immigré à l'autre, il disait « tu parles bien la France » parce qu'il avait fait une faute.
On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'écoute pas. On ne se comprend pas, on ne se suit pas, on se connaît pas.
Je roule sur la marge, je vis en parenthèse. L'encre coule sur la page, je repars en 16. Je marche, puis seul dans la foule. J'ai mon héritage sur l'épiderme. Ma tour 10 étages, j'écrivais ses viternes. Avancer sans la virgule, avec nos accents aigus. Où la montée au circule, ma voix sans le vécu. L'écran allume les passions, c'est tension. Comment tu veux qu'on se comprenne quand c'est TF1 qui fait les présentations? Les points d'interrogation, est-ce qu'on peut blâmer la misère? Partout la crise a besoin de boucs émissaires. Un retour à Babel, t'en passes trop vite, j'écris. Conflit de civilisation, à qui profite le crime? La raison manque à l'appel, on sait même plus qui a tort. La religion fait diversion pendant qu'on chute à l'appel. Saute le pas, les drames, faudra devancer. Éteindre le feu avant que ça crame et corriger les fautes de français.
On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas. On a grandi ensemble mais on se connaît pas. On s'explique les choses mais on s'écoute pas. On parle le même langage mais on se comprend pas. On avance dans la même direction mais on ne se suit pas.
Vous avez choisi cette chanson de Lino, Julien Barré.
Parce qu'elle s'appelle Faute de français et parce que Lino est à mes yeux un des plus grands rappeurs français. Mon premier livre était sur le rap où je faisais une comparaison entre les poètes de la fin du Moyen-Âge ou des artistes comme Bobby Lapointe et les rappeurs, en ce sens que les rappeurs utilisent la langue comme si c'était un matériau sonore avec des techniques de rime qu'ils ont inconsciemment empruntées aux poètes du Moyen-Âge, aux grands rhétoriqueurs, aux troubadours, et je pense en particulier à la rime équivoquée qui est une rime très riche sur plusieurs syllabes.
Et le français de France Culture, il est comment?
Le français de France Culture, il est, de mon point de vue, énoncé de façon assez calme. C'est assez marrant de voir d'ailleurs la scansion des différentes radios. Vous avez les radios privées type RMC Info, où on va parler comme ça et mettre l'accent. Le côté France Inter qui va peut-être être à mi-chemin entre le parler France Culture, qui a souvent été un sketch de Gad Elmaleh, l'illustre, où ce serait Arte ou France Culture, l'émission un petit peu où on s'endormirait. Tout ça, ce sont des clichés, mais on a une particularité ici qui serait peut-être de prendre le temps et d'écouter.
Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir ce matin pour parler de votre ouvrage, un essai sur la langue française d'aujourd'hui. Tu parles bien la France. Restez avec nous, Julien Barré. Dans un instant, Laurent Nunez pour les prix littéraires de cette année. Vous les avez suivis? Vous les avez un peu lus, Julien Barré? Vous êtes plutôt hip-hop?
Je lis pas les choses, je les lis en décalage ou les classiques, mais je vais en lire certains.
Laurent Nunez, bonjour.
Bonjour.
On passe à l'objet de votre chronique, c'est-à-dire les prix littéraires de cette année. On va commencer par le Goncourt des lycéens, allez.
Oui, parce que vous savez, dans un vers célèbre, Apollinaire explique que l'automne, c'est sa saison mentale, celle qu'il préfère, la saison à laquelle il aurait voulu vivre toute sa vie. Bah, pour les critiques littéraires, l'automne, c'est surtout la saison de l'épuisement mental, à coup de 500 ou 600 romans, les années de vache maigre, qu'il faudrait avoir lu dès l'été, pour les présenter convenablement aux lecteurs et surtout pour essayer de briller, vous savez, au jeu des pronostics des prix littéraires. Alors voilà, en effet, bon, la rentrée littéraire est finie, les prix littéraires ont tous été donnés et les sondages qui, comme en politique, ont été complètement inutiles et vains. Mais voilà l'heure du bilan. Alors, on va rien dire, vous savez, sur la folie de la rentrée littéraire, sur le nombre fou de livres qui paraissent, etc. Vous savez que c'est un thème, par exemple, qu'on retrouve, qui est très ancien et qu'on trouve dans les articles des journalistes dès 1890.
Ouais.
Donc voilà, d'ailleurs, pour l'info, c'est une expression qui semble avoir été inventée par Renan dans une lettre en 1880. Donc voilà, donc on ne va pas s'époumoner sur la rentrée littéraire. C'est horrible et c'est très bien. On va surtout parler des livres, en effet, qui ont été primés. Et on va retenir qu'un grand thème, en fait, a surgi. Un thème qui, je crois, n'apparaissait pas autant les autres années. C'est le thème de la violence. La violence faite aux enfants, aux femmes, aux autres hommes. Du coup, c'est vrai qu'on se demande si les prix d'automne saluent alors une œuvre littéraire intéressante ou un livre qui convoque un sujet contemporain. C'est presque ce que j'appelle, vous savez, l'effet pile-poil. C'est un livre a eu un prix non parce qu'il était bien écrit, mais parce qu'il est dans l'air du temps. Un an avant, un an après, on l'aurait peut-être pas ouvert.
Oula, je sens que vous n'allez pas être très gentil avec les primés de cette année. Donc, on disait qu'on allait commencer par le Goncourt des lycéens.
Oui.
Petit pays, Gaël Faye.
Ben voilà, c'est l'exemple type. Alors là, c'est la violence de loin. Petit pays, Gaël Faye, qui a obtenu donc le premier prix de l'automne, qui était le prix du livre FNAC. Et il a obtenu aussi le dernier prix de l'automne, le prix Goncourt des lycéens. Alors, c'est un roman, c'est vrai, inspiré de la vie de l'auteur. Donc, c'est pas une autobiographie, il faut le rappeler quand même, de l'auteur qui est chanteur et rappeur, et qui raconte donc l'enfance du jeune Gabriel au Burundi, tandis qu'éclate la guerre civile entre Hutu et Tutsi. Alors, c'est vrai qu'il y a des pages dedans, des pages très très fortes sur la guerre, sur l'enfance ratée, sur le fait, c'est écrit plusieurs fois, qu'à un moment, on doit tous choisir un camp. Et c'est aussi sur la manière dont on fait le mal, parfois sans même le vouloir. Il y a des pages très 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 brutales. C'est un bon livre, c'est vrai, mais est-ce que c'est vraiment une œuvre littéraire? Et vous savez, si vous lisez entre les lignes, toutes les critiques qui ont paru sur ce livre vont quand même dans le même sens. Hein. C'est un livre honorable, un premier roman vraiment intéressant, mais l'écriture manque quand même de souffle. Elle est tout de même très scolaire. Vous savez, par exemple, ce qui est très scolaire, c'est la répétition d'une même astuce au moins 10 fois dans le roman. C'est des chapitres qui décrivent l'enfance, pauvre mais heureuse. Et puis, à la dernière phrase, la dernière phrase qui clôt le chapitre, eh ben, elle annonce la guerre qui s'approche et qui vient. Voilà, c'est une opposition qui aurait été intéressante, mais 10 fois, c'est quand même 9 fois de trop. Mais en tout cas, il y a cette guerre, il y a cette violence qui est là, et qui de toute façon va continuer dans tous les autres romans primés cette année.
Par exemple, le Goncourt pour Laïla Slimani, ben voilà. Chanson douce. Vous allez dire la même chose?
Là, la violence, alors là, tout d'un coup, elle est plus ailleurs, elle est vers nous. Alors c'est un,
elle est domestique.
C'est, voilà, c'est un fait divers américain, mais. C'est complètement retranscrit dans le 10e arrondissement, ce moment est bonne. C'est en effet Chanson douce de Laïla Slimani, un titre complètement antithétique, hein, évidemment, puisque c'est l'histoire d'une nounou qui commet un double infanticide. Donc vous voyez que là encore, le livre joue complètement sur nos peurs. Hein. La cellule familiale qui serait attaquée de l'intérieur, l'agression des êtres les plus innocents, des bébés. La femme en qui on avait confiance, mais qui n'a pas vraiment d'instinct maternel, c'est vraiment le monstre pour notre société, la femme sans instinct maternel. Et puis même le couple bourgeois qui délègue toutes ses responsabilités. Alors c'est un roman qui en effet vient d'un fait divers, comme désormais la plupart des romans, hein, très, très, très bizarrement. Et c'est un roman qui est tout de même assez mal écrit. Et là, il faut quand même le reconnaître, avec pas mal de stéréotypes, et qui devrait... On se le dit tous à mots couverts entre critiques, devrait pas laisser de souvenirs impérissables dans les mémoires. Mais il a quand même été il marche quand même très très bien. On en est là pour l'instant, on en a 114 000 exemplaires, dont juste 45 000 la semaine du Goncourt. Vous voyez, c'est quand même formidable. S'il y a quelque chose à noter quand même d'intéressant chez Laïla Slimani, c'est qu'elle publiera début 2017 une série de portraits et de reportages qui s'appelle La vie sexuelle des Marocains. Pour dénoncer, vous savez, la terrible schizophrénie qui règne dans un pays où la sexualité n'est autorisée que dès lors qu'elle est totalement invisible.
Ouais, on continue, même si le fait de dire ni Gaël Faye ni Laïla Slimani ne savent écrire, ça peut poser, ça peut ouvrir la porte à certains questionnements, Laurent
oui.
Dunez.
Gaël Faye a une écriture beaucoup plus romanesque, beaucoup plus intéressante encore, parce que c'est un chanteur, que Laïla Slimani, j'avoue, son livre m'a un peu tombé des mains. Mais vraiment, l'ovni littéraire, à mon avis, de la rentrée.
C'est le premier d'ici.
Ouais, c'est le Primé d'Issis.
Ah oui, tout le monde le dit.
Voilà. C'est le Yvan Jablonka, qui s'appelle Laetitia, sous-titré La fin des hommes. Alors, c'est intéressant parce que il a été primé en tant que roman, mais c'est aussi un essai. Donc, il joue sur ce clivage, un essai sur le drame qu'a vécu la jeune Laetitia Perret, vous savez, qui a assassiné en 2011 par un homme qui a toujours refusé d'expliquer son crime.
C'est bien écrit?
Alors, ça, c'est passionnant parce que justement, Jablonka ne joue pas au sociologue. Il est sociologue et parfois il dit qu'il est simplement un être humain. Et il raconte ses propres sentiments. Le livre a parfois été attaqué pour ça. On a dit qu'il en disait trop, qu'il n'était plus dans son rôle. Je crois qu'il est encore dans son rôle parce qu'un livre, c'est quand même écrit par un être humain. Et l'objectivité pure, vous savez, ça n'existe pas. Moi, je préfère qu'on avoue sa subjectivité plutôt qu'on la cache.
Et enfin, on termine par le prix décembre.
Et c'est encore un livre sur la violence, sur l'extrême violence, cette fois la violence
djihadiste.
Djihadiste, c'est Comment Baptiste est mort d'Alain Blottière, qui raconte le retour en France d'un jeune djihadiste, Baptiste, qui a été débaptisé et qui doit rendre des comptes. Je crois que cette fois, là, par contre, il y a un vrai écrivain. Il y a une vraie écriture dedans. Vrai écrivain et sujet dans l'air du temps, ça donne un jackpot. Le livre a reçu le prix Motard de l'Académie française, le prix Décembre et le prix Jean Giono. Et quand je dis jackpot, vous savez que je sais ce que je dis. Hein. Le prix Motard, c'est 3 000 euros. 30 000 euros le prix Décembre, 10 000 euros le prix Giono. Ça fait donc 43 000 euros que vient de toucher Alain Blottière, de quoi lui assurer du temps, beaucoup de temps, pour écrire son prochain livre.
Merci Laurent Nunez, merci aussi Julien Barret d'être venu ce matin. Enfin, une dernière question, est-ce que Gaston parle bien français? Est-ce qu'il y a un français Gaston Lagaffe?
Ah, il y a un français de la bande dessinée, Gaston c'est enfin, c'est ça son...
Voilà, il aura bientôt 70 ans, on en parle demain. La suite des petits matins, Émilie Chaudet.